Bienvenue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, c'est en tant que tes enfants, en tant que serviteurs, que nous nous plaçons devant toi pour ce matin, entendre ta parole, recevoir ton message, essayer de comprendre qui tu es, ce que tu veux nous dire, nous enseigner. Nous nous plaçons devant toi pour être élevé par toi, éduqué par toi, que tu nous fasses grandir en maturité et en sagesse. Bénis ce temps, que ton esprit vraiment nous conduise en toutes choses, encore ce matin, pour être édifié, exhorté, fortifié, et pouvoir mettre en pratique tes enseignements. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons poursuivre les études sur le livre de Jean. Donc le message de ce matin fera la suite de celui que nous avait apporté Emmanuel le dimanche 3 novembre dernier, qui parlait de la femme adultère. La transition est vraiment facile et aisée ce matin pour vous parler du thème principal de Jean 8, 12 à 29, qui est celui-ci, je suis la lumière du monde. Alors nous avons vu dans les études précédentes que Jésus nous disait qu'il était le pain de vie. Aujourd'hui, nous verrons qu'il nous dit qu'il est la lumière du monde. Et je vais un petit peu vous retracer, pour rafraîchir un peu les mémoires, le contexte. Donc ce que je disais, ce passage fait suite directement à l'histoire de la femme adultère, rappelez-vous. Cette femme qui avait été amenée dans le temple par les pharisiens afin de la présenter à Jésus et de lui dire « Voilà, la loi nous dit, cette femme a péché, elle doit mourir, elle doit périr, lapidée. Que dis-tu ?» Et Jésus leur avait répondu ceci, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Alors c'est une bonne transition pour le texte qui vient, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait Jésus par cette parole? Eh bien, il a tout juste mis en lumière les péchés cachés de ses accusateurs. Et les uns après les autres, ils sont tous partis. La lumière sur le péché. Eh bien, c'est ce que Jésus vient nous annoncer ce matin, et à l'époque. « Je suis la lumière, dit-il. » La scène donc se passe toujours dans le temple de Jérusalem, mais dans une autre partie qui s'appelle le trésor. Le trésor, c'est en fait une pièce, un parvis des femmes dans le temple de Jérusalem, où l'on plaçait les offrandes qui étaient récoltées dans des sortes de trompettes, offrandes qui étaient composées de pièces d'argent et d'or. Nous allons faire la lecture du passage. Donc Jean 8, versets 12 à 29. Jésus leur parla de nouveau, et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu te rends témoignage à toi-même ? Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si je me rends témoignage à moi-même, « mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens, d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. » Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, « Mais où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent, va-t-il se tuer, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur parlait du Père, et Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. En étudiant ce passage, il m'est apparu une chose vraiment particulière, c'est la mise en opposition de plusieurs thèmes. Tout d'abord, la lumière du monde. Jésus se présente comme la lumière du monde. La lumière du monde en opposition avec les ténèbres des hommes, de l'humanité. Ces ténèbres qui sont dues au péché. Et Jésus nous dit que, étant la lumière du monde, il fallait le suivre pour savoir où mettre les pieds, où aller. Effectivement, je pense que Jésus, à ce moment-là, alors qu'il pénétrait dans le temple, dans ce parvis, a dû utiliser le moment où ils ont allumé les candélabres. Vous savez, un petit peu, dans les temples, il y a des pièces un petit peu partout. Et certainement, à l'époque, ils n'avaient pas l'électricité. Donc ils ont certainement dû allumer les candélabres pour se rendre donc dans le parvis. Et je pense que, probablement, Jésus a utilisé ce moment pour dire, voilà, je suis la lumière du monde. Effectivement, si vous avez déjà vu... soit à la télé, soit vous avez peut-être été amené à marcher dans la nuit avec un flambeau. Il faut rester vraiment proche du flambeau pour voir où on va. Parce que si on s'éloigne de quelques mètres, on ne voit plus rien. Je suis la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres. C'est le message qu'il leur apporte, qu'il nous apporte. Sans Jésus, nous sommes comme des aveugles. Nous ne savons où nous allons et nous resterons toujours dans les ténèbres. La deuxième chose, la deuxième partie du texte, nous voyons que les pharisiens mettent en doute le témoignage de Jésus. Encore une fois, les pharisiens qui étaient des hommes de loi, qui étaient, on pourrait dire, les pasteurs, les prêtres d'aujourd'hui, les rabbins, utilisaient la loi de Moïse, utilisaient la loi du peuple juif pour essayer de contrecarrer les dires de Jésus. Et dans la loi, effectivement, il est dit ceci, il est dit que pour attester d'un témoignage, pour attester d'une vérité, c'est dommage, Yann n'est pas là, en tant qu'avocat, il aurait pu l'attester, nous avons besoin de témoins. Et dans la loi juive, à l'époque, eh bien, un témoignage ne suffisait pas pour attester de la vérité. Il était nécessaire d'avoir au moins deux témoignages. Et là, Jésus, qui évidemment connaissait bien cette loi, leur répond de deux façons. La première, il leur dit ceci, « Mon témoignage est vrai. Je suis, en gros, hein, mon témoignage est vrai. » Je vais vous lire le texte, ce sera plus simple. Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. En fait, là, Jésus leur répond une chose, c'est qu'il n'est effectivement pas d'ici, donc il est bien de condition divine. Et en tant que condition divine, étant Dieu lui-même, il n'a pas besoin d'avoir un autre témoignage que le sien. Mais comme les pharisiens étaient durs d'oreille, Il ne voulait pas comprendre, certainement. Il en rajoute encore une couche et leur dit, voilà, le Père, si vous avez besoin de ça, donc le Père, Dieu, lui aussi rend témoignage de moi. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça et de quelle façon Dieu, le Père, pouvait rendre témoignage de Jésus? Eh bien tout simplement par les miracles qu'il accomplissait, par les paroles de connaissance qu'il avait, les prophéties de sagesse. Tout cela, la vie de Jésus, tout cela attestait clairement qu'il était bien le Messie, l'envoyé de Dieu. La troisième idée qui est développée ensuite, c'est celle du jugement. Au verset 15, il est dit ceci. Vous vous jugez de façon humaine, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Alors là, Jésus est en train de dire aux uns et aux autres la différence encore qu'il y a entre Dieu, entre lui-même, et la nature humaine. Il est clairement en train de dire que lui ne juge pas selon les apparences. Les hommes jugent selon les apparences. Et forcément, comme on le sait très bien, les apparences sont trompeuses. Et donc nous pouvons nous tromper. La justice est faillible. La justice humaine est faillible. On connaît pas mal de cas, hein, dernièrement, aux infos, de jugements, de personnes qui ont été déclarées coupables et qui, des années plus tard, ont eu des révisions de procès et on s'est rendu compte qu'on s'était complètement trompé. Et des hommes et des femmes ont eu des vies totalement brisées par un mauvais jugement et une condamnation hâtive. Eh bien, avec Dieu, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on peut utiliser ça pour répondre à pas mal de gens qui peuvent nous poser la question en se disant « Mais l'enfer, la condamnation des hommes, c'est pas normal. C'est trop dur. Presque il peut se tromper. » Non, non. Dieu est le juste juge. La connaissance de l'homme par Dieu est parfaite. Dieu connaît nos cœurs parfaitement. Il ne nous juge pas sur nos actes, parce que s'il le faisait, on serait tous perdus. Ça, c'est certain. Il nous juge sur la connaissance de nos cœurs. Et nous ne connaissons pas la profondeur de notre cœur, mais Dieu le connaît. De ce fait, nous ne devons pas nous juger les uns les autres, parce que nous ne connaissons pas le cœur des uns et des autres. De plus, Jésus, dans sa réponse, laisse aussi entrevoir le fait qu'il connaisse l'avenir, et notamment son futur rôle dans la création de l'humanité, et surtout au niveau de la fin. C'est Jésus qui jugera les hommes. Dans ce passage-là, il est clairement, ou plutôt à demi-mot, expliqué qu'en fait, il n'est pas venu là pour juger, puisqu'il dit « je ne juge personne », effectivement. La première venue du Christ à l'époque, il y a plus de 2000 ans, il n'est pas venu pour juger les hommes. Il est venu pour les sauver. Il est venu pour les délivrer. Par contre, il dit « si je juge, mon jugement est vrai », parce qu'effectivement, Jésus connaît les cœurs. Effectivement, le jugement est déjà là, mais il n'est pas prononcé encore. Il sera prononcé qu'à la fin des temps. Ce qui nous laisse une chance. Ce qui laisse une chance à l'humanité de croire en lui. Verset 18. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Où est ton Père? Alors là, c'est vraiment C'est vraiment particulier cette question, parce qu'en fait, quand Jésus parle de son Père, il ne dit pas « mon Père », il dit « le Père ». Donc quand les pharisiens lui disent « mais où est ton Père ?», on pourrait se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment une ignorance, parce que là effectivement, quand on lit le texte, on se rend compte qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas qui réellement est Jésus. Ou alors, enfin, en tout cas leur question incessante le ferait penser. Mais on pourrait penser aussi que certains ironisent. Les pharisiens, ne pensez-vous pas que quand Jésus dit « le Père qui m'a envoyé, je ne suis pas d'ici, je suis d'en haut », etc., etc. Ne pensez-vous pas qu'ils ironisent en disant « mais où est ton Père ?» On pourrait même les imaginer en train de regarder la foule, mais où est ton Père ? Où est ton Père ?» Moi, je pense qu'ils avaient très bien compris de quel Père ils parlaient, et que c'était une ironie. Effectivement, la suite nous le dit. Quand Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc en deux reprises, il dit le Père et ensuite il répond par mon Père. Et là, le texte est clair, en grec, il est écrit mou, M-O-U, qui veut dire mon Père. Donc s'il avait voulu vraiment dire mon Père au départ, ça serait écrit comme ça. Or, il n'est pas écrit mon, mais juste Père, le Père. Donc il est très probable que ces gens-là ne voulaient pas comprendre. Mais peut-être pas tous. La suite d'ailleurs, le verset 30 que je n'ai pas lu, nous le confirmera. Jésus leur dit encore au verset 21, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Plus loin, au verset 23, il leur dit, « Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. » Au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Si vous ne croyez pas que je suis, notre traduction que moi je suis, nous montre que là, Jésus est en train clairement d'utiliser le nom de Dieu en parlant de lui-même. Souvenez-vous dans Exode 3, verset 14, c'est Dieu qui se révèle à Moïse. Souvenez-vous ce qu'il dit, quel nom il se donne. Vous en souvenez? Je suis. Je suis celui qui suis, l'Éternel, je suis. Et là, Jésus reprend exactement ce terme en disant, si vous ne croyez pas que je suis. Donc là, c'est clair. Le message est clair. Il s'annonce comme étant le Messie, l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même. Alors là, on pourrait se dire, c'est bon, les pharisiens ne sont pas bêtes, ils ont compris. Eh ben non. Le verset 25 nous montre une question vraiment déplorable. Mais qui es-tu donc? Qui es-tu donc? Depuis le début, Jésus s'annonce. Et là encore, les pharisiens lui posent la question, mais qui es-tu donc? Ignorance, désir de ne pas comprendre. Je crois que Jésus le sait très bien et c'est pour ça qu'il répond ceci. Je ne cesse de vous le dire depuis le début. À ce moment-là, il ne leur dit pas clairement, je suis le Fils de Dieu. Ça ne sert à rien. Ces gens-là ne veulent pas comprendre. Il parle juste donc à ceux qui ont le désir de comprendre. Et au verset 30, il est écrit, « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. » Effectivement, il y a quand même dans l'auditoire des gens qui sont ouverts à recevoir son message. Au verset 21, 24 et 28, nous pouvons voir que là, Jésus dévoile une autre de ses capacités. C'est la connaissance de l'avenir. Bon, nous le savons bien, mais là encore, on le voit dans sa façon d'expliquer les choses. Il nous annonce sa mort, sa résurrection, son ascension, ainsi que le sort de ceux qui ne croiront pas en lui. En lisant le verset 28, avec le recul que nous avons aujourd'hui, nous voyons Jésus annoncer sa crucifixion et les signes montrant son origine divine. Tremblement de terre, ténèbres, voile déchiré et résurrection. Effectivement, il dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Au verset 28, je vais vous le lire. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Élever le Fils de l'homme, image de sa crucifixion et de tous les signes qui ont suivi par la suite, et notamment la plus forte et la plus importante, sa résurrection d'entre les morts. Enfin, le passage se termine sur une attitude qui détermine à la fois sa relation au Père et également sa divinité, avec une totale obéissance, une recherche permanente à faire ce qui lui est agréable, ce qui a pour récompense une présence sans faille de son Père à ses côtés. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que nous faisons toujours ce qui est agréable à Dieu? Ceux qui le font lèvent la main. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que nous n'avons pas en permanence la présence de Dieu dans nos vies. Nous sommes des pécheurs, notre chair nous éloigne de la vérité, nous conduit à pécher, à désobéir à Dieu, et de ce fait, nous couper de sa relation. Heureusement que Christ est là, ce pardon permanent pour celui qui se repent de tout son cœur. Et à ce moment-là, nous retrouvons cette communion avec lui. Jésus, la lumière du monde. La lumière, qu'est-ce qu'on ferait sans la lumière? Est-ce que la vie existe sans lumière? Point de vie. Sans lumière, point de vie. La lumière, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la lumière? Une direction. Éviter les embûches. Se voir les uns les autres. Et qu'est-ce qu'elle apporte d'autre? La vraie lumière, la belle lumière, celle qui transcende les couleurs. Allez voir dans le Nord si les couleurs sont les mêmes qu'ici, là où il fait toujours gris. Il y a de la lumière, mais elle est voilée. Et la vie n'a pas le même aspect. Tout semble gris. On a la chance de vivre ici avec une belle lumière, sans nuages. Et on profite vraiment de ce que Dieu nous a donné dans la nature. Moi, je suis en extase pendant deux périodes, bon, on va dire les quatre saisons, mais surtout deux des quatre saisons, le printemps et l'automne. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Profitez de temps libre pour aller vous balader dans les forêts, dans la campagne, et regardez les couleurs que le soleil donne aux feuilles des arbres. Des rouges, des oranges, des bruns, c'est magnifique. Et le printemps, la floraison, c'est pas beau aussi? Pour avoir vu à la fois ces choses-là, avec un soleil voilé et avec un soleil clair, je peux vous dire que les teintes ne sont pas les mêmes. Et les aveugles nés, qui sont restés dans les ténèbres toute leur vie, le jour où il recouvre la vue. Quel festival de couleurs miroitantes, éclatantes, étincelantes. Avant de connaître Christ, nous étions ces aveugles-nés. On peut s'imaginer les choses. Mais qu'est-ce qui est plus beau que la réalité, la vérité, la beauté de ce que l'on voit? Imaginez que Jésus est venu sur la terre pour nous ouvrir les yeux, nous apporter sa lumière et nous faire vivre éternellement dans cette lumière, dans cette beauté. Imaginez un peu ce que nous allons voir quand nous serons avec lui. Cette révélation magnifique la Jérusalem céleste. Vous avez lu un petit peu ce qu'il en est écrit ? Étincelante comme une pierre précieuse. Vous avez déjà pris une pierre précieuse ? Quand la lumière traverse toutes les couleurs, c'est magnifique. C'est ce qu'on vivra éternellement avec lui, dans la lumière. Je suis la lumière du monde. Nous voyons donc en conclusion ces oppositions. Si on reprend le texte du début à la fin, qu'est-ce que Jésus nous montre ? Jésus, les hommes, la lumière, les ténèbres, en haut, en bas, le ciel, la terre. Le jugement parfait de Dieu, le jugement infaillible, en face, le jugement humain, basé sur les apparences trompeuses et la faillibilité. La vérité, le mensonge, l'omniscience, l'ignorance, la vie, la mort. Chercher le plaisir du Père, chercher notre propre plaisir. Ce sont les thèmes qui ont été développés ici par Jésus. Et quel message pouvons-nous en tirer aujourd'hui, ce matin ? Eh bien, sans Christ, nous sommes dans les ténèbres et nous y resterons éternellement. Notre humanité, c'est notre ignorance de la vérité. Cette ignorance nous sépare de Dieu et nous empêche de comprendre ses paroles, nous empêche de le connaître, nous empêche d'y voir clair. Le jugement humain, la justice humaine, décevante, attristante, rebutante pour certains, accablante, injuste. La vérité n'est pas notre nature. La vérité n'est pas en nous. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons toujours besoin d'avoir des témoignages qui confirment nos actes. Si nous disions tous la vérité, les jugements seraient plus simples. On n'aurait pas besoin d'avoir des preuves, témoignages et autres. Notre désobéissance et notre péché nous empêchent d'être dans la volonté du Père, nous empêchent de bénéficier de sa présence, de sa douce présence, et nous condamnent par là même à la mort éternelle, à la séparation d'avec lui. Si on s'arrêtait là, le tableau serait vraiment triste, accablant, terrifiant. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Cette bonne nouvelle, eh bien, c'est le pardon que nous pouvons recevoir, le pardon de nos péchés, que nous pouvons recevoir par la foi en Jésus. Cette foi en Jésus-Christ nous donne donc accès à sa nature divine par son esprit. Et nous permet à notre tour de vivre en harmonie avec notre Dieu et Père adoptif. Cette foi en lui nous sauve de nous-mêmes. Cette foi en lui nous apporte la lumière dans notre vie. La joie, le bonheur, la vérité. Et pour les autres, eh bien, il y a Jean 3, verset 19 qui nous dit « Voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. » Pour quelle raison ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je pense que nous pouvons rendre grâce vraiment à Dieu pour cette lumière qu'il est venu apporter dans nos vies, cet éclairage sur la vérité. Nous pouvons vraiment lui rendre grâce parce que grâce à lui, nous savons où nous allons. Nous avons cette fameuse lampe à nos pieds. Nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas errants dans les ténèbres pour l'éternité. Vous savez, C'est terrible parce que dans mon travail, qui est un milieu particulier, il nous arrive quelquefois de parler de tout ça, et c'est souvent malheureusement sous le ton de la plaisanterie, pas forcément mesquine, mais ça m'arrive souvent de sourire quand je les entends se moquer gentiment. Jésus revient parmi les siens, d'autres chansons comme ça un petit peu. Bon, j'aime mes collègues, je les aime, j'en viens à sourire souvent, je souris, oh gentiment, je dis ah, il me taquine, c'est pas méchant. Mais en même temps, il y a quelque chose au fond de moi qui me parle et qui me dit, tu souris, mais toi tu sais où ils vont. Tu sais où ils vont aller. Ces collègues que tu apprécies. Ils ne savent pas, ils sont dans les ténèbres. Comment leur dire que ce Jésus qui va revenir sera là pour les juger, les condamner et les livrer à eux-mêmes. Alors grâce à Dieu, j'ai pu leur dire quand même que l'enfer, c'était pas comme ils pouvaient imaginer. Je leur ai donné l'image, en fait, de quelqu'un qui recevait, qui avait un accident et qui, du jour au lendemain, ne pouvait plus parler, ne pouvait plus voir, ne pouvait plus entendre, mais vivait toujours. Il était livré à lui-même, seul dans le noir, avec ses pensées et son désespoir. Ça les a quand même interpellés. Mais ils ont envie de tourner la page. Et ça m'attriste. Ça m'attriste. J'aurais quand même dit que j'aimerais les retrouver, là-haut. Et je prie de tout mon cœur que je puisse un jour les retrouver là-haut. L'ignorance, la folie, le désir de garder son péché caché, c'est ce qui perd l'humanité. C'est ce qui aurait pu nous perdre. Mais grâce à Dieu, il est venu nous pointer du doigt, nous dire, regarde, regarde où tu vas, regarde qui tu es. Tu as une porte de sortie. Une porte de salut, c'est Jésus-Christ. Saisis sa main. Attrape cette bouée de sauvetage. Accroche-toi bien. Reviens à Dieu. Confesse tes péchés, il te pardonnera. Et reviens dans l'obéissance. Reviens à ton Créateur. À ton Créateur. Le Créateur de toutes choses. Tu n'es pas Dieu. Il est Dieu. Il est la lumière. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu as fait la chose la plus extraordinaire qui soit. En sacrifiant ce qui était le plus cher pour toi. En sacrifiant ton propre fils, ton bien-aimé, celui que tu chéris, de la même nature que toi, pour un peuple de pécheurs, de rebelles, d'ignorants, d'inconscients, de stupides que nous sommes. Tu es à la fois un mystère pour nous, un mystère d'amour si grand, si puissant, si fort, mais en même temps de sainteté, de justice, de vérité et de condamnation. Tu es à la fois saint, parfait et amour. Tout cela me dépasse, tout cela nous dépasse. Tu es à la fois notre ami et notre juge. À la fois tu nous sauves et tu nous condamnes. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui a tout créé. Tu as tous les droits, tu as toute autorité. Et tu nous aimes. tellement. Seigneur, matin, je voudrais te dire à quel point je suis conscient de cet amour, mais je suis conscient aussi de ta sainteté, de ta grandeur, de ta puissance. Révèle-toi à nous vraiment de toutes ces facettes de ce que tu es vraiment. Que nous puissions vraiment t'aider, t'aimer en retour avec toute la reconnaissance, mais aussi tout ce qui peut faire que nous sommes si petits devant un être si grand, si puissant. Tu es à la fois le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tu es à la fois le Dieu de la loi et de la grâce. Tu es celui qui fait mourir et qui fait vivre. Père, merci parce que tu nous fais vivre. Merci parce que tu veux que le monde entier vive. C'est ta volonté. Aide-nous vraiment encore ce matin et les jours qui viennent et pour l'éternité à vraiment déceler ta divinité totale, complète. Ne pas garder juste ce qu'il nous plaît d'entendre, de vivre. Tu n'es pas qu'un simple ami, un simple copain qui, oh, c'est pas grave. On peut faire ce qu'on veut, non. Non, non. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour nos fautes. Pardon, parce que trop souvent j'ai pris à la légère, personnellement, ce don, ce cadeau que tu nous as fait. Pardon, parce que trop souvent, je m'endors sur mes lauriers. Je me dis, c'est pas grave. Oh, après tout, il m'aime. Ah oui. Il m'aime, mais je ne dois pas bafouer cet amour. Je ne dois pas cracher dessus. Pardon, pardon pour toutes ces fois où j'ai agi de la sorte. Et Père, vraiment, je te demande de vraiment nous révéler qui tu es vraiment, révéler en même temps ta puissance. Et merci aussi parce que par Jésus-Christ, nous évitons ta colère. Nous évitons le jugement et la destruction de l'humanité. Complète. Tu nous as sauvés de nous-mêmes et nous voulons te prier encore ce matin que tu nous aides à être cette lumière, que tu nous aides à briller sur tous les toits, que tu puisses encore nous utiliser pour témoigner de Jésus-Christ au monde, de la vérité au monde, pour que tu puisses en sauver le plus grand nombre. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Merci parce que tu nous combles et tu nous bénis, nous avons tout et encore plus que ça. Mais Seigneur, tu as toutes choses. Nous t'appartenons. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, eh bien oui, que nous ayons ça dans notre cœur, que nous puissions renoncer à tout pour toi, pour te suivre, pour venir dans ta lumière. Béni sois-tu, béni soit le jour où Jésus-Christ est venu sur la terre. Pour nous sauver. Que notre être, notre esprit, notre âme, notre corps puissent être donnés en retour à notre Seigneur et Sauveur. Amen.